motions.
Bien, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui avez affronté les intempéries et traversé la cour d'Henri IV pour trouver ce magnifique préfabriqué qui nous accueille. Nous remercions les autorités du lycée et aussi bien sûr évidemment le Collège international de philosophie qui a bien voulu accueillir les programmes de recherche. Je dis bien les recherches, les programmes, parce que Ferhat Telhan, qui est à ma droite ici, est directeur de programme sur un thème, sur un objet qui est la mésologie, les sciences et techniques des rapports entre les hommes et les milieux. Et il commence son travail, en tout cas public. Et moi-même, Christian Laval, qui suis directeur de programme au Collège international de philosophie depuis 2010 et qui poursuit une recherche sur les transformations du champ de la connaissance à l'âge néolibéral. Un programme qui a démarré par un séminaire auquel je crois un certain nombre d'entre vous ont participé à un moment ou à un autre, qui s'appelait « Du public au commun » et qui va donner lieu très prochainement à l'apparition d'un livre, vous voyez, j'en profite pour faire un peu de publicité, un livre sur le commun à la fin du mois de mars. Mais nous abordons ici un tout autre sujet apparemment qui concerne donc, comme le titre l'indique, les nouveaux savoirs de la normalisation. Ce thème, cet objet, donc sera étudié durant les prochaines séances, 5 séances, dont vous avez pris connaissance, sans doute, sur le site du Collège international de philo ou par les listes que nous utilisons pour vous informer de nos activités. Ces séances ne sont sans doute qu'un début d'un travail plus long. C'est un travail, comme il se fait au Collège international de philo, qui n'est pas une transcription ou une transmission d'un savoir déjà fait, déjà achevé. Ce n'est pas un cours, c'est véritablement un séminaire de recherche qui suppose que tous les participants ont le pouvoir et ont presque l'obligation de dire à certains moments leur accord, leur désaccord, ajouter des choses, etc. Donc vous savez qu'au Collège international de philo, on pratique finalement une recherche très ouverte et, comme on dit dans ce milieu, ce petit milieu, une recherche expérimentale en essayant à chaque fois de trouver des formes les plus fécondes de travail. Le thème donc de notre recherche a pour titre « Les nouveaux savoirs de la normalisation ». Il nous est apparu depuis assez longtemps, depuis le moment où le projet ou le programme a été déposé, qu'il y avait des formes de gouvernement des hommes, pour reprendre évidemment un concept bien connu de Foucault, des formes de gouvernement des hommes qui se renouvelaient et qui se renouvelaient en s'appuyant sur des savoirs nouveaux, sur des savoirs qui étaient autant fondamentaux qu'appliqués. Et il nous est apparu que depuis les années 90, mais avec une certaine intensification, une certaine accélération dans les années 2000, eh bien, ce vaste champ qu'on appelle les neurosciences constituait aujourd'hui une espèce de point d'appui, de socle sur lequel pouvaient s'appuyer des formes nouvelles de pouvoir dans des institutions très différentes et dans des domaines très différents, que ce soit dans le domaine de l'économie, du marketing, du management, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la justice, et évidemment que ce soit dans le domaine psy, au sens le plus large du terme. Et donc c'est ce thème-là que nous voulons aborder aujourd'hui par, un ensemble de propos qui seront des propos introductifs. Donc nous ne prétendons absolument pas, évidemment, faire le tour du sujet. Nous prétendons seulement aujourd'hui poser un certain nombre de, disons, de concepts et de thèmes et d'analyses qui nous serviront ensuite comme des sortes de points de départ pour les développements des prochaines séances. Alors la séance va se dérouler ainsi. Nous allons en quelque sorte expliciter un peu plus les termes du sujet de la recherche, de les nouveaux savoirs de la normalisation. Pierre Dardot, à ma gauche, donc, commencera par développer un certain nombre de considérations sur la question du savoir et des savoirs en relation aux formes de pouvoir. Et Ferhat, à ma droite, continuera sur la question de la norme, de la normation et de la normalisation, en s'appuyant en particulier sur les distinctions qu'a introduite Michel Foucault. Et quant à moi, je ferai un petit exposé qui répondra au thème spécifique de la séance sur ce que l'on peut entendre par neuropolitique. Voilà, je passe la parole maintenant à Pierre. Merci.
Bon, donc je voudrais réfléchir un petit peu sur la première partie de l'intitulé qui est celui de ce travail de séminaire, puisqu'il s'agit des savoirs au pluriel de la normalisation. Il ne va pas de soi d'utiliser le terme de savoir, il va encore moins de soi de l'utiliser au pluriel, et il va encore moins de soi de ne pas utiliser le terme de science et d'utiliser le terme de savoir à la place du terme de science. Alors je rassure tout de suite certains esprits, ce n'est pas par une volonté d'euphémisation, ce n'est pas pour dire justement science sans dire science en utilisant un mot qui est un petit peu plus faible du point de vue de sa signification. C'est parce que nous voudrions véritablement faire porter la réflexion sur cet objet qu'on appelle le ou les savoirs. Donc, je crois qu'il faut commencer peut-être par une explication concernant la signification que nous attachons à ce terme. Je partirai tout simplement de l'objectif d'une certaine association, je la nomme d'ailleurs, l'Association française pour l'information scientifique, qui se fixe un certain nombre d'objectifs et qui, me semble-t-il, véhicule, d'une façon tout à fait consciente d'ailleurs, une certaine idée, une certaine représentation de la science, et je pense que c'est cette représentation de la science qu'il faut commencer par mettre en question pour accéder justement à la compréhension de ce qu'on appelle le ou les savoirs. La déclaration d'intention, en tout cas, ou programmatique de cette association, la FIS, est la suivante: elle se donne pour but de promouvoir la science contre ceux qui nient ses valeurs culturelles, la détournent vers des œuvres malfaisantes, ou encore use de son nom pour couvrir des entreprises charlatanesques. Elle se veut indépendante de tout groupe de pression et veut éviter toute concession au sensationnalisme, à la désinformation et à la complaisance pour l'irrationnel. L'organe de diffusion de cette association est la revue Science et Pseudo-Science. Alors, il me semble que déjà dans le montage, il y a quelque chose d'assez intéressant et important à relever, c'est que tout le socle de cette déclaration repose sur une opposition qui est assez frontale, à mon avis extrêmement simplificatrice pour ne pas dire plus, entre la science et la non-science, entre la science et la pseudo-science, entre le rationnel qui serait porté exclusivement par la science et l'irrationnel qui serait du côté bien sûr des pseudo-sciences, avec le cas échéant dans les déclarations qui sont faites par certains des représentants de cette association, une accentuation mise sur la dimension religieuse de ce à quoi s'affronte la science. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une représentation qui est quasi héroïsée de la naissance ou de la constitution de la science qui, toujours, naît dans un combat contre l'irrationnel, contre le religieux, contre l'obscurantisme, contre les préjugés. Bon, on connaît ça, c'est une représentation qui est assez ancienne, mais je disais que c'était justement la représentation dont il fallait s'affranchir pour arriver à comprendre ce que l'on signifie par le terme de savoir. Parce que notre idée n'est pas du tout de signifier que le savoir, c'est la même chose, par exemple, que ce que l'on appelait à une certaine époque l'idéologie. Notre intention n'est pas de signifier que c'est quelque chose, par exemple, qui précéderait la science, mais qui serait ensuite chassé ou exclu par la science une fois constituée. Notre intention n'est pas de signifier, par conséquent, qu'il s'agit de quelque chose comme d'une préhistoire de la science. Il était, en particulier dans les années 70, de bon ton, en tout cas dans certains courants, d'opposer d'une manière extrêmement frontale la science à l'idéologie, ou d'opposer la science à sa préhistoire, de considérer que la science se constituait par une coupure. Or, il me paraît qu'il y a un ouvrage qui, à cet égard, mérite d'être relu, en tout cas revisité. C'est un ouvrage écrit par Michel Foucault en 1969, qui s'appelle « L'archéologie du savoir ». Et précisément, il y est question du savoir, il y est question de façon très précise du concept de savoir. Et ce concept se trouve spécifié dans un contexte tout à fait particulier. Alors je dis tout de suite que c'est un ouvrage qui me paraît assez important, bien que ce soit un ouvrage qui n'ait pas eu tellement de postérité dans l'œuvre même de Foucault. C'est-à-dire que grosso modo, entre 69 et 74-75, il y a un certain nombre d'années qui s'écoulent. À partir de la volonté de savoir, il y a un tournant qui est pris, et Foucault ne reviendra plus à cette idée du savoir qu'il est amené à élaborer ou à mettre en place en 69. Or, c'est assez important parce que c'est une œuvre qui est en même temps tournée vers son propre passé. Il est amené à revenir sur la notion d'épistémé, qu'il avait particulièrement explorée, fouillée, élaborée dans Les mots et les choses. Et là, il élabore donc cette notion de savoir, et dans ce qu'il élabore, il me semble qu'il y a un certain nombre d'éléments qui méritent d'être repris aujourd'hui. En particulier, cette idée que le savoir, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui est de l'ordre des pratiques de discours. Il y a une insistance pour indiquer que le savoir est constitué par des pratiques de discours, des pratiques discursives, puisque c'est un terme que Foucault aime beaucoup, en 69, il parle beaucoup de discours. Mais justement, les discours ne sont pas exactement ce que nous appelons du même nom, ce que nous avons tendance, en tout cas spontanément, à appeler de ce nom-là, puisque les discours, ce sont des pratiques. C'est une façon donc de prendre la notion de discours qui est tout à fait particulière. Des pratiques qui supposent qu'il y ait un certain nombre de règles de formation, des énoncés, des pratiques qui consistent à délimiter un domaine d'objet, des pratiques qui consistent à l'intérieur de ce domaine à modifier ou à altérer la distribution entre les différents objets qui font partie de ce domaine, des pratiques qui impliquent d'entrer en relation ou de s'articuler avec des pratiques discursives qui appartiennent à d'autres champs, à d'autres domaines d'études, voire à des pratiques qui ne sont pas discursives. Et il me paraît qu'il y a là d'ailleurs un enjeu qui est tout à fait important pour nous, cette idée que le savoir nous oriente vers une articulation entre des pratiques de discours et des pratiques qui ne sont pas discursives, c'est-à-dire, pour le dire d'une façon très directe, des pratiques qui peuvent être sociales et politiques. Voilà. Je prends l'exemple tout simple de l'économie politique, puisque Foucault, dans ce texte-là, parle aussi bien de l'histoire naturelle que de la médecine clinique, que du savoir psychiatrique au XIXe siècle, que de l'économie politique. Et justement, il prend cet exemple de l'économie politique en indiquant qu'il y a là quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une pratique discursive qui n'a pas attendu la constitution de l'économie politique comme science, qui a précédé la constitution de l'économie politique comme science. Et cette pratique discursive qui convenait donc de s'intéresser à certains objets, qui posait ou qui sélectionnait un certain type d'objet, cette pratique discursive a d'emblée été articulée à des pratiques qui n'étaient pas discursives. À des pratiques discursives aussi, mais qui relevaient d'un autre domaine d'études, mais à des pratiques qui n'étaient pas discursives, à des pratiques politiques justement, ou à des pratiques directement économiques. Et il met ça en évidence en indiquant que par savoir, il faut entendre finalement ce qui doit être dit, ou ce qui a dû être dit, pour qu'un certain discours scientifique puisse se constituer. Alors, il y a là quelque chose d'assez important, parce que, en fait, dans les formulations de ce texte, on rencontre deux types d'énoncés, ce qui a dû ou doit être dit, et ce qui peut être dit. Ce qui peut être dit, c'est le dicible, tout ce qui délimite, par conséquent, le champ à l'intérieur duquel on peut dire quelque chose sur certains objets. Les pratiques, donc, qui s'occupent de ces objets, qui obéissent à certaines règles de formation, voilà ce qui l'intéresse. Et en même temps, il indique donc que c'est ce qui a dû ou ce qui doit être dit pour qu'une certaine science puisse se constituer. Donc l'idée, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui soit dit pour qu'un certain domaine se constitue à l'intérieur duquel la science va prendre place. Donc l'idée qui est très importante, me semble-t-il, c'est pour ça que j'ai commencé par régler ses comptes à une certaine représentation de la science, assez héroïque, encore une fois, et guerrière, assez conquérante, c'est que justement, la science, lorsqu'elle se constitue, ne se constitue pas à partir de rien, elle vient se loger ou se placer à l'intérieur d'un savoir. Et ce qui est très important, c'est que justement, elle se nourrit de ce savoir. Elle ne cesse de se nourrir de ce savoir. Elle ne met pas fin au savoir. Justement, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas considérer le savoir comme étant la préhistoire idéologique d'une science. Elle continue, tout au long de son existence, de se nourrir d'un tel savoir. Et par conséquent, le rapport entre la science et le savoir n'est pas du tout un rapport d'exclusion. C'est pas un rapport qui serait, par exemple, un rapport de proportionnalité directe qui ferait que plus la science gagnerait en rigueur dans ses démonstrations et plus la part donnée au savoir aurait tendance à diminuer, voire à disparaître. Parce que ça, c'est encore quelque chose qui relève justement de la représentation de la science que Foucault veut mettre à mal, et il me semble que sur ce point-là, il a tout à fait raison. Donc cette idée que, finalement, la science et le savoir ne sont pas extérieurs l'un à l'autre, voilà, quelque chose qui me semble tout à fait fondamental. Il utilise le mot d'idéologie, il l'utilise d'ailleurs assez volontiers, il faut quand même se rappeler qu'en 69, c'est un mot qui, alors, non seulement est assez à la mode, mais qui est utilisé dans un contexte souvent très politique pour désigner un discours qui a, ou un système de représentation qui a une fonction d'occultation et de légitimation par rapport notamment à des intérêts sociaux, par rapport à des intérêts de classe. Bon, Foucault d'ailleurs le sait très bien, et il dit qu'il ne faut pas dédaigner cette interrogation sur la dimension idéologique de la science, mais si on veut être vraiment fécond, productif, concernant cette dimension idéologique de la science, il faut justement faire attention au régime du savoir. Il faut commencer par interroger, il dit, c'est au point précis où dans le savoir se découpe la science que l'on peut arriver à identifier la dimension idéologique d'une science. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de comprendre que la science n'en finit jamais avec le savoir. Elle peut en finir avec certaines erreurs, elle peut redresser, corriger, elle peut encore une fois améliorer le caractère apodictique de son discours, c'est-à-dire faire en sorte que les démonstrations relèvent de règles formelles, de plus en plus suivies, et impeccablement, comment dirais-je, mises en œuvre. Il n'en reste pas moins qu'elle n'en finit jamais avec le savoir dont elle est issue et dont elle se nourrit. Ça me paraît être quelque chose de tout à fait important. D'autant que, justement, s'agissant de cet enjeu, Foucault précise, en ce qui concerne l'économie politique, mais en ce qui concerne également d'autres discours et d'autres savoirs, que c'est toujours, quand il y a une véritable critique de l'idéologie d'une science à faire, c'est toujours en la prenant comme pratique. C'est toujours, voilà, il y a un des points, il énonce comme ça quatre propositions, et la dernière me semble très importante. Il nous dit que justement, quand on veut soumettre la dimension idéologique d'une science à une critique, le mieux, le plus important, c'est de la reprendre comme pratique à l'intérieur d'autres pratiques, de la mettre comme pratique en relation avec d'autres pratiques. Alors encore une fois, avec des pratiques qui peuvent être discursives, mais avec des pratiques qui peuvent ne pas être discursives. Alors j'indique ça à titre d'orientation, puisque c'est une sorte de direction en tout cas qu'on peut se tracer les uns aux autres du point de vue du travail de recherche qui sera entrepris dans le cadre de ce séminaire. Mais ça me paraît éclairant de revenir à ce que Christian disait juste avant sur les neurosciences. Il faut savoir qu'on a affaire là à quelque chose qui n'est absolument pas homogène. C'est la première chose. Il faut savoir, deuxièmement, qu'il y a une sorte de périodisation, même si elle est assez grossière et schématique, qu'on peut être amené à donner, qui est que des années 60, du milieu des années 60, disons jusqu'à la fin des années 1990, vous avez justement des savoirs et des sciences d'ailleurs et des pratiques scientifiques qui sont assez, comment dirais-je, à la fois assez éclatées et en même temps relativement coordonnées parce que vous avez une approche qui est essentiellement vouée à l'explication de la cognition, ce qu'on appelle l'opération de la cognition, c'est-à-dire les opérations de la connaissance. Donc en général on part d'une idée assez simple, c'est qu'il y a un esprit et on va interroger, justement, élucider, tâcher d'élucider les opérations de connaissance qui sont celles de cet esprit. Mais ça n'empêche pas que, par ailleurs, vous avez des prises de position philosophiques qui peuvent être très diverses. Je veux dire par là que vous avez des matérialismes, mais des matérialismes, on reviendra sur cette notion-là qui est assez délicate, qui peuvent être extrêmement différents les uns des autres. Par exemple, un matérialisme qu'on a appelé réductionniste, qui consiste à réduire les états mentaux à des états cérébraux. Vous avez un matérialisme qu'on a appelé d'ailleurs très très vite éliminativiste, qui consiste donc à éliminer tous les concepts d'où sont issus, les principales notions de la psychologie ordinaire, par exemple la notion de croyance, la notion de désir. Il faut donc les éradiquer ou les éliminer. Bon, quand c'est dit subtilement, on invoque le cas échéant le rasoir d'Occam, et on sait que ce philosophe du XIVe siècle se trouve justement associé à cette idée du rasoir, l'élimination de toutes les entités qui sont arbitraires et qui justement n'ont aucune place parce qu'elles n'ont aucune nécessité. Et puis il y a une prise de position philosophique qui va être assez importante pendant en tout cas une vingtaine d'années, qui est connue sous le nom de fonctionnalisme. Alors là, le fonctionnalisme, c'est justement l'idée que vous avez un dualisme des propriétés, c'est-à-dire, grosso modo, il y a les propriétés physiques, il y a des propriétés qui relèvent, en revanche, plutôt de l'aspect sémantique ou de la dimension sémantique. Alors, dualisme des propriétés, ça veut dire que, par exemple, si on compare, c'est une analogie qui est assez fréquente, dès la fin des années 60, début des années 70, si on compare l'esprit avec un ordinateur, à ce moment-là, Il y a des propriétés qui relèvent justement du programme de l'ordinateur, et puis il y a des propriétés qui relèvent du circuit électrique. Les propriétés qui relèvent du circuit électrique, c'est les mécanismes physiques, ce qu'on appelle les mécanismes d'implémentation physique dans le jargon ou le langage qui va se mettre en place assez rapidement. Et puis d'autre part, les autres propriétés qui ne sont pas physiques, mais qui sont justement des propriétés de l'ordre de la sémantique, et qui permettent justement de mettre en rapport les significations et les mécanismes d'implémentation ou les mécanismes physiques. Voilà, j'indique ça parce que c'est une analogie qui est très importante, qui va fonctionner à plein avec une sorte... Alors ce n'est pas du tout une exclusivité, mais c'est une sorte de primauté du fonctionnalisme, avec cet étagement comme ça, ce dualisme des propriétés. Et donc vous voyez qu'en général, les gens qui sont fonctionnalistes à cette époque-là sont des gens qui ne sont pas réductionnistes, qui considèrent que justement, il y a une certaine autonomie pour les représentations mentales, et que par conséquent, on doit tenir compte de cela. Et vous avez un tournant, en fait, qui s'effectue, qui opère à la fin des années 90. Alors ce tournant-là, qui est connu des gens qui s'intéressent à l'évolution de toutes ces disciplines, ce tournant-là est pour nous un tournant absolument majeur, un tournant fondamental. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas poser la question des savoirs de la normalisation indépendamment de la configuration qui est issue de ce tournant. Or, ce tournant, dans les années 90, à la fin des années 90, au début et à la fin, bon, ça commence à se mettre en place au début des années 90, c'est un tournant qui voit le fonctionnalisme, donc l'hypothèse fonctionnaliste, remise à mal, critiquée. Donc l'hypothèse du dualisme des propriétés, avec tout ce qui va avec, avec une certaine autonomie reconnue au niveau sémantique. Et c'est donc les neurosciences qui vont s'installer au centre de tout ce dispositif. Alors c'est assez important, parce que c'est un peu moins connu, et là, vous avez une série de théories qui vont voir le jour. Bon, je n'entre pas dans le détail, il faudra le faire à certains moments, mais vous avez des théories. Bon, vous avez l'ancienne théorie, la théorie représentationnaliste, si on peut dire. Vous avez les théories computationnelles, donc il est facile de comprendre ce à quoi ça fait référence. Des théories connexionnistes. Le connexionnisme va être un courant qui va s'affirmer comme étant de plus en plus important, qui va entrer en concurrence justement avec les représentations du fonctionnalisme traditionnel. Bon, tout ceci va se développer dans une situation qui n'est pas du tout une situation d'homogénéisation. Ce que je veux dire par là, c'est que la primauté qui est désormais consacrée des neurosciences ne va pas entraîner nécessairement immédiatement une sorte de fusion de toutes les disciplines qui se sont constituées à l'intérieur de cette constellation. Je prends un exemple, comme ça, en 2007, il y a eu un article assez remarqué de quelqu'un qui est un spécialiste en psychologie cognitive, qui mettait en évidence que pour lui, la psychologie cognitive, ça avait une certaine place, que ce n'était pas la même chose que les sciences de la cognition, et que ce n'était pas encore la même chose que les neurosciences, que les neurosciences avaient pour objet le cerveau, que la psychologie cognitive avait pour objet l'esprit, et que la psychologie cognitive avait pour objet l'esprit, et que les sciences de la cognition, selon lui, avait pour objet l'interaction ou la relation causale entre l'esprit et le cerveau. Vous voyez que les choses ne sont absolument pas du tout simples à cet égard. Il faut éviter de simplifier, justement, pour comprendre ce qui relève de la dimension du savoir, hein, puisqu'on en vient à cette question-là épineuse. Alors, je me contente ici d'indiquer, et j'arrêterai sur ce premier exposé, ce que peut être une direction de recherche concernant, justement, non pas la localisation de ce savoir, je n'ai pas trop parlé de cette manière-là, mais en tout cas un élément de savoir, ce que j'appellerais un élément de savoir transversal. Voilà. Un élément de savoir transversal, c'est-à-dire un élément de savoir qui se retrouve dans des pratiques scientifiques assez différentes. Cet élément de transversal qui me paraît tout à fait important à identifier, je l'appellerais, d'une expression que je vais ensuite m'attacher à justifier très rapidement, l'homologie ou la quasi-homologie entre le fonctionnement de l'esprit ou du cerveau, parce que vous allez voir que là aussi il faut faire attention, et d'autre part le fonctionnement économique du marché, et le fonctionnement en particulier d'un agent sur le marché. Voilà. À cet égard, c'est non pas un noyau, mais en tout cas un élément transversal de savoir qui me paraît important à isoler ici, parce que ce qui est en question, c'est tout simplement le rôle que l'on est amené à assigner à l'information. Alors je crois que c'est une notion qui mérite d'être problématisée, c'est une notion d'ailleurs qui est très rarement définie. Ça fait partie, Andler lui-même, qui est un des spécialistes, qui a publié justement deux volumes avec une autre personne sur... justement les sciences, les neurosciences, la psychologie cognitive, etc., indiquent que la notion d'information elle-même ne fait jamais l'objet d'une élaboration expresse ou d'une définition rigoureuse. Il n'empêche que cette notion d'information a une place qui est très importante. Alors elle est disproportionnée relativement au caractère conceptuellement un peu invertébré qui est le sien. Je veux dire par là qu'elle n'est pas définie, mais en même temps elle a une place qui est extraordinairement grande. Et dans ce que j'appellerais justement cet élément de savoir. Alors pour une raison très simple, j'ai parlé tout à l'heure de l'analogie entre l'esprit et une machine de traitement de l'information. C'est une analogie qui vient assez vite se formuler. Alors ce qui se passe dans les années 90, c'est qu'on ne va plus modéliser la fonction, on va directement modéliser l'organe, c'est-à-dire le cerveau. Et justement la primauté qui est celle des neurosciences à partir de là, fait qu'on va s'intéresser directement à l'organe, c'est-à-dire au cerveau, au fonctionnement du cerveau, quitte à construire justement des cerveaux artificiels ou des neurones artificiels. On y reviendra, mais c'est un point qui est assez important. Et donc, on va relativement peu s'intéresser à ce qui était avant un objet très important, c'est-à-dire les calculs symboliques effectués par l'esprit, précisément parce que l'esprit devient de moins en moins important et le cerveau de plus en plus important. En revanche, on va continuer à parler d'information. Et on va continuer, malgré le changement qui intervient, à parler de circulation de l'information. Et ce qui me paraît important, c'est cette importance justement pratique donnée dans les pratiques scientifiques elles-mêmes à la notion d'information. Avec une conséquence assez directe qu'on peut apercevoir, c'est que si je parle de quasi-homologie entre le fonctionnement du marché et le fonctionnement du cerveau comme machine de traitement de l'information, c'est parce que justement on parle de plus en plus... à propos du fonctionnement du marché lui-même aujourd'hui, d'information et de circulation de l'information. On parle justement du capitalisme cognitif, à propos du capitalisme dans lequel nous sommes amenés à vivre aujourd'hui, et on parle de la différence, on fait la distinction souvent, sur ce plan-là, entre l'information et la connaissance. Et on indique souvent, par exemple en économie, qu'il est indispensable pour qu'une connaissance soit utilisable, c'est-à-dire exploitable, et qu'elle puisse donner des externalités bénéfiques, comme on le dit, il est absolument indispensable qu'elle puisse être décomposée en unités élémentaires. Et donc on a une conception de la connaissance, qui est une conception justement qui donne à l'information toute sa place, parce que l'information justement, à la différence de la notion qu'on peut avoir assez vague de la connaissance, est immédiatement, elle, quelque chose que l'on peut considérer sous l'angle d'une unité élémentaire. On peut la combiner, on peut la composer, on peut justement produire un certain nombre de messages en faisant en sorte que les unités d'information soient codifiées d'une certaine manière. Et il me paraît que ce qui est très important, par exemple dans une notion dont on aura peut-être l'occasion de reparler, qui est assez importante en économie politique, est la notion de capital cognitif. C'est justement l'articulation entre la connaissance et l'information. Voilà. Alors ce qui me paraît important, voilà, un élément transversal de savoir qui me paraît assez important pour orienter en tout cas la réflexion et la recherche, parce que il me semble que plus on aura l'occasion de s'étendre un petit peu sur ces différents points et d'entrer dans le détail, et plus on s'apercevra que cette homologie entre le fonctionnement du marché et le fonctionnement du cerveau va occuper une place assez décisive. Voilà, j'en ai terminé.
Ok, merci Pierre. Premier exposé bien dense. Bon, j'espère que vous avez pris des notes. Maintenant, je vais passer la parole à Ferhat. Donc, en 20-25 minutes, donc... Va nous dire au fond pourquoi, en quoi finalement l'expression normalisation à la fois sans doute convient pour ce que l'on veut dire, mais aussi pose un certain nombre de problèmes dans la mesure où leur référence à la norme est peut-être trop massive pour pouvoir être utilisée de façon simple par rapport à notre sujet sur la connaissance du cerveau.
Merci. Donc oui, à mon tour, je vais essayer de préciser, comme a dit Christian, rapidement en quel sens nous entendons ce concept de normalisation quand nous évoquons les savoirs de la normalisation, tout en sachant que ce concept paraît banalisé depuis bien longtemps. D'ailleurs, il est quelque peu discrédité par certains travaux récents. Je pense notamment à certains commentateurs de Foucault, comme Stéphane Legrand, ou alors à un psychanalyste ou plutôt psychiatre comme Pierre-Henri Castel, qui se rejoignent pour critiquer la pertinence du traitement foucaldien, voire post-foucaldien, des concepts de normes et de normalisation, et élever, selon eux, au statut d'un signifiant omnipotent, mais qui tourne dans le vide. Mais déjà, avant eux, en fait, déjà, enfin, Foucault lui-même constatait cette banalisation du concept de normalisation lorsqu'il disait, et là je le cite de la leçon du 25 janvier 78, il disait, vous connaissez mieux que moi la fâcheuse fortune de ce monde de normalisation. Qu'est-ce qui n'est pas normalisation? Je normalise, tu normalises, etc. Essayons, il dit, de repérer quelques points importants dans tout cela. Donc je pense qu'on peut suivre le geste de Foucault, qui d'une part dénonce avec d'autres gens la banalisation du concept, mais d'autre part revendique un usage positif de celui-ci. Donc contrairement à ce que pensent certains commentateurs, moi j'aurais tendance à soutenir que la normalisation n'est pas un signifiant vide ou un mot d'ordre militant qu'on viendrait injustement calquer sur le savoir, mais qu'il s'agit là d'un concept presque classique de la philosophie politique et de l'épistémologie, et d'ailleurs de leur croisement, et c'est ça qui est intéressant, et qu'on peut donc l'utiliser légitimement lorsqu'on réfléchit sur des sujets qui nous intéressent cette année, par exemple donc la neuroamélioration ou la neuroéconomie. Donc je me limiterai à Canguilhem et à Foucault seulement aujourd'hui pour poser un certain nombre de définitions et d'y discuter avec vous éventuellement certaines propositions qui en découlent, en espérant de montrer donc qu'on peut à la fois avoir de la rigueur théorique et faire usage de ces concepts. Donc je vais partir d'abord de Canguilhem, de Georges Canguilhem, pour tenter de distinguer la normativité biologique et la normalisation sociale. Et si je pars de Canguilhem, c'est aussi parce qu'il inspire directement Foucault sur ce problème de normalisation, et c'est pas... Enfin, il me semble que c'est un point important, parce que, justement, il s'agit d'un historien des sciences, et que on peut voir par là qu'il y a un lien direct entre les problématiques épistémologiques ou d'histoire des sciences et le problème de normalisation ou de normes. Donc, dans un premier temps, Canguilhem est attentif à la puissance normative de chaque vivant, c'est-à-dire à la capacité du vivant à imposer ses normes au milieu dans lequel il vit. Donc, dans cette perspective biologique, les normes désignent ce qui est négocié en permanence entre le vivant et son milieu de vie. Elles permettent de qualifier de normal ou non l'un par rapport à l'autre, enfin le milieu par rapport au vivant ou l'inverse. Je cite Canguilhem de Normal et pathologique. Le vivant et le milieu ne sont pas normaux pris séparément, mais c'est leur relation qui les rend tels l'un et l'autre. La normativité biologique est donc relationnelle par son essence, et cette propriété s'articule en deux aspects. Donc, d'une part, s'il n'y a pas de vie sans normes, c'est parce qu'il n'y a pas de vie isolée, tout court. Toute forme de vie se forme et se développe dans un milieu déjà normé où elle tente de déployer les siennes, sa propre puissance normative. Mais d'autre part, cette démarche permet de centrer le débat des normes sur l'individu vivant, justement, qui constitue le centre de son milieu. Il est dit, Canguilhem, l'unique point à partir duquel on peut évoquer les normes vitales en tant qu'elles sont éprouvées par lui. Donc, comme il n'y a pas de vie isolée, il n'y a pas non plus de normes isolées. Toute enquête sur la normativité, pour Canguilhem, doit se centrer sur les vivants pour qui il y a normes. Donc, dans cette perspective de Canguilhem, il y a l'idée centrale selon laquelle la vie biologique n'est jamais indifférente aux conditions dans lesquelles elle existe. La vie, dit Canguilhem, est réaction polarisée, c'est-à-dire qu'elle exclut ou préfère sans cesse les options possibles. Et en un sens, les normes biologiques ne sont rien d'autre que ces choix vitaux stabilisés dans la régularité d'un comportement. En ce qui concerne notamment la santé, Canguilhem affirme que l'homme est sain pour autant qu'il est normatif relativement à son milieu. Donc pour lui, la santé parfaite n'est qu'une idéalisation qui ne possède pas sa norme unique déposée une fois pour toutes dans le ciel des normes sanitaires. Donc je le cite encore, je cite l'ouvrage donc, « Normal et pathologique ». En toute rigueur, il dit « une norme n'existe pas, elle joue son rôle qui est de dévaloriser l'existence pour en permettre la correction ». Dire que la santé parfaite n'existe pas, c'est seulement dire que le concept de santé n'est pas celui d'une existence, mais d'une norme dont la fonction et la valeur est d'être mise en rapport avec l'existence pour en susciter la modification. Fin de citation. Donc, du point de vue du vivant singulier qui tend à poser des normes, celles-ci ne sont que des tentatives de modification de ces modes d'existence en vue d'une amélioration qu'il juge lui-même souhaitable ou nécessaire. C'est pour cette raison que le concept de norme, dit qu'un Guillaume encore, est un concept qui ne se laisse pas réduire à un concept objectivement déterminable par les méthodes scientifiques. Et là, évidemment, c'est le point central de sa critique d'une certaine objectivité scientifique qui aura l'ambition de déterminer entièrement le concept de norme sur un seul domaine. Alors, voilà pour le premier volet de Kangilem, c'est-à-dire sur la normativité biologique. Or, cette perspective se complique dès qu'on passe à l'ordre social. Et en fait, dès après la guerre, après la Deuxième Guerre, Kangilem dénonce ce qu'il appelle la rationalisation des techniques d'aménagement des rapports entre l'homme et le milieu. Donc là, on passe à une problématique directement politique. Et au vu de cette préoccupation politique sur les techniques qui réduisent l'homme à un matériau à utiliser et qui tendent à aménager son milieu pour le transformer, les travaux de Kangilem qui affirment la normativité vitale apparaissent donc sous un nouveau jour. Et la position de Kangilem selon laquelle un vivant ne se réduit pas à un carrefour d'influence constitue un véritable fondement philosophique à partir duquel il va critiquer tout réductionnisme biologique, psychologique ou sociologique de l'homme. Et à partir de là, donc, toute une série d'interventions critiques lui permettent de critiquer des domaines de savoir justement très divers comme le taylorisme, le behaviorisme, le réductionnisme neurologique, etc. Et à chaque fois, la représentation de l'homme, ici de ses savoirs, est contestée par les données d'une philosophie biologique. Donc il ne s'agit pas pour lui du tout d'être anti-science ou de se mettre dans une position externe à la science, mais tout en restant à l'intérieur d'une domaine de rationalité scientifique qui est la biologie, contester certaines représentations de l'homme qui en sont issues. Donc, si la normativité vitale constitue un point de résistance à toute tentative exhaustive de calcul et de rationalisation des comportements humains, pour Kangilem, elle se dresse aussi contre la psychologie du comportement qui prône, dit Kangilem, une mentalité de manager des relations de l'homme avec l'homme. Ce sont des textes assez qui écrits assez tôt, en fait, et qui, à mon avis, gardent toute leur actualité, qu'il s'agisse des neurosciences ou du cognitivisme. C'est pour ça que je les trouve encore pertinents et intéressants. Et il dira, par exemple, pour critiquer le réductionnisme neurologique, dans un texte qui s'appelle « Le cerveau et la pensée » qui date de 1980, il dit « Aujourd'hui, à l'âge de l'électronique, pas plus qu'au XIXe siècle, on ne peut expliquer la connaissance scientifique ou l'expérience poétique par la réplique cérébrale du rapport entre le milieu et l'organisme. » Donc voilà, et ces préoccupations épistémologiques et politiques de Kangilem sur la normalisation sont surtout lisibles dans un texte un peu plus tardif, qui date un peu plus tardif par rapport au normal et pathologique, qui date de 63, intitulé « Du social au vital ». Et là, dans cet essai, Kangilem déplace le terrain même du débat. Donc, au niveau biologique et individuel d'une normativité vitale, se substitue un niveau historique et social, où la généralisation d'une norme sociale apparaît comme réponse à une certaine sollicitation collective. Donc l'exemple qu'il donne permet de mesurer la différence entre ces deux niveaux-là, je le cite. Là, il est en train de donner une définition de la norme sociale ou collective. Il dit « Une voie normale de chemin de fer est la voie définie par l'écartement de 1,44 mètres entre les bords intérieurs des rails, c'est-à-dire celle qui a paru répondre à un moment de l'histoire industrielle et économique de l'Europe au meilleur compromis recherché entre plusieurs exigences d'ordre mécanique, énergétique, commercial, militaire, politique, etc. La normalisation des moyens techniques de l'éducation, de la santé, des transports, etc. est l'expression d'exigences collectives dont l'ensemble, défini dans une société historique, donner sa façon de se référer, sa structure, à ce qu'elle estime être son bien singulier. Donc, on voit comment il construit ici une sorte de graduation entre la norme, le normal et la normalisation. Une norme, selon lui, une norme qui découle d'un compromis est décidée et ensuite appliquée. Son application constitue le normal, qui est à la fois l'extension et l'exhibition de la norme. Dès qu'un Guilhem, il multiplie la règle en même temps qu'il l'indique. Donc la norme peut être virtuelle, tandis que le normal est toujours actualisation. Et sur le plan social, le normal actualise la norme en la réalisant dans un certain nombre d'individus qui en deviennent non seulement les porteurs, mais aussi les promoteurs. Donc la normalisation sociale indique rien de plus, mais dans un sens c'est déjà beaucoup, que le mouvement par lequel la norme devient le normal, c'est-à-dire se trouve appliqué ou exercé en grande quantité. Une norme se propose, mais ne s'impose pas, ne nécessite pas son effet, tandis que sa normalisation implique son acceptation par un grand nombre. Donc, autrement dit, l'établissement d'une norme se fait toujours sur le constat d'un manque ou d'une donnée à modifier. C'est la raison pour laquelle la normale est logiquement second et existentiellement premier, selon Guilhem. C'est-à-dire, la normale ne peut être désignée comme telle avant qu'on définisse la norme et qu'on fasse exister le normal, mais d'autre part, il constitue la raison pour laquelle, justement, on tente d'établir cette norme. Et on voit comment le débat se complique avec l'intervention de la dimension collective ou politique. Qu'est-ce qui tente donc de poser ou d'imposer de l'extérieur une exigence à une existence? Ou alors, la question est celle de savoir quelles sont les raisons politiques, collectives, historiques de cette exigence qu'on veut réaliser dans l'existence. Donc par là, Guilhem indique bien qu'une tentative de normalisation sociale n'est pas réductible à la normativité vitale. Et en tant que tel, parler des normes sociales implique d'avoir un point de vue extérieur au domaine purement vital ou biologique. Cela implique qu'on puisse avoir une épistémologie propre aux normes sociales. Et on devine déjà la dette colossale de Foucault envers ce texte de Guilhem, donc intitulé « Du social au vital ». Foucault le cite très souvent comme étant à l'origine de ce qu'il appelle le pouvoir de normalisation, dont il est largement question au moment de la publication de Surveiller et punir. Et lors de sa leçon du 15 janvier 1975, donc c'est dans Les Anormaux, Foucault se réfère explicitement à ce texte, et puis il dit ceci, je le cite, « Dans ce texte où il est question de la norme et de normalisation, on a un certain lot d'idées qui me paraissent historiquement et méthodologiquement fécondes. La norme se définit non pas du tout comme une loi naturelle, mais par le rôle d'exigence et de coercition qu'elle est capable d'exercer par rapport au domaine auquel elle s'applique. La norme est porteuse, par conséquent, d'une prétention de pouvoir. La norme, ce n'est même pas un principe d'intelligibilité, c'est un élément à partir duquel un certain exercice de pouvoir se trouve fondé et légitimé. Comme cette polémique dit Guilhem, peut-être pourrait-on dire politique. Fin de citation. Donc ici, Foucault non seulement rejoint Guilhem dans la définition de la norme comme étant une exigence portée sur une existence, mais la tord dans son sens. C'est-à-dire il y a un pouvoir de la norme ou un pouvoir de la normalisation selon Foucault, précisément parce que lorsqu'un pouvoir impose ou soutient une norme et lorsqu'elle devient capable de coercition. Et inversement, lorsque Foucault déclare que la norme est un élément à partir duquel un certain exercice de pouvoir se trouve fondé et légitimé, le pouvoir de la norme s'entend au sens d'une norme qui accorde un supplément de force à un pouvoir en place ou en formation. Donc dans les deux cas, il s'agit d'un opérateur qui sert à qualifier ou à corriger les hommes, donc opérateur politique, si on entend par politique une action normative exercée sur le champ social, en vue de sa transformation. Bien, bon, je ne vais pas développer en détail ce que Foucault entendait par norme ou par normalisation, sinon on en aura pour plusieurs heures. Je rappelle simplement une distinction essentielle que fait Foucault dans le cours de 78 entre normation et normalisation, parce que cette distinction participe justement de l'effort de l'effort que fait Foucault pour affiner le concept de normalisation, y compris par rapport à Canguilhem. Bien, c'est relativement simple. Il y a normation, dit Foucault, lorsqu'il y a une norme qui a été décidée auparavant. Par exemple, on peut prendre un exemple du domaine disciplinaire. La norme, ça va être l'horaire de réveil à 6 heures pour les ouvriers ou pour les écoliers. Et puis, on l'impose à une multitude en vue de, d'uniformiser les comportements. Donc, dans le modèle disciplinaire, par exemple, le normal est produit, en quelque sorte, à partir d'une norme préétablie. C'est aussi le sens canguilhemien du concept, parce que Canguilhem ne disait pas autre chose quand il définissait la normalisation comme imposition d'une exigence à une existence. Or, il y a un deuxième sens, dit Foucault, et on peut parler alors de normalisation strictement quand c'est le normal qui est premier par rapport à la norme. Par exemple, on va prendre un taux de mortalité d'une certaine maladie, et il prend l'exemple de la variole, qui est 1 sur 8 pour une telle année, qui va être le taux normal auquel on va essayer de tenir, c'est-à-dire que c'est le normal statistique qui sera premier, et la norme sera déterminée à partir de normal. Foucault dit ceci, dans les disciplines, on partait d'une norme, et c'est par rapport à ce dressage effectué par la norme qu'on pouvait ensuite distinguer le normal et l'anormal, tandis que là, dans la normalisation, on va avoir un repérage du normal et de l'anormal, et l'opération de normalisation va consister à faire en sorte que les plus défavorables soient ramenés à celles qui sont les plus favorables. Donc ici, on va parler strictement de normalisation, puisqu'il s'agit d'une extension du normal qui serait premier, et non pas de la norme qui est première. Donc vous remarquez que la normation, ce que Foucault appelle normation, correspond plutôt au modèle disciplinaire et aux normes de travail industriel, tandis que la normalisation a l'air de correspondre à un constat de l'exigence sociale, mais n'empêche que ce que Foucault appelle les dispositifs de sécurité travaillent de manière à maintenir, à modifier ou à généraliser cette courbe de normalité constatée. Bien, donc, après ce parcours bref du concept de normes et de normalisation chez Canguilhem et Foucault, je vais finir en faisant quelques remarques sur l'usage positif que nous pouvons en faire, en lien aussi avec cette neuropolitique qui nous intéresse cette année. Alors, il me semble qu'il existe une série de pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber quand on parle de normalisation. Et dans ce sens-là, je rejoins en fait Stéphane Legrand, par exemple, dans certains critiques utiles qu'il fait de cette notion-là. Bon, premièrement, parce que les registres normatifs sont multiples, évidemment, parce qu'il y a des normes vitales, comme il y a des normes sociales, ou encore il y a des normes juridiques, il faudrait sans doute éviter d'évoquer des expressions comme « le pouvoir des normes », comme si il y avait une unité d'ensemble. Parce que de telles expressions créent l'illusion justement de cette unité fictive. Donc, il faudrait à chaque fois préciser de quelle norme nous parlons, et je crois que la norme de santé mentale sous laquelle travaille justement notre ami et complice Mathieu Bellassem, d'ailleurs qui a fini un livre sur le sujet qui va paraître dans un mois, aux éditions de La Fabrique, voilà, parenthèse de pub, cette norme de santé mentale sur laquelle nous allons travailler cette année, on peut essayer d'analyser dans quelle mesure elle relève d'une normation ou d'une normalisation, c'est-à-dire est-ce qu'elle découle d'une norme préétablie qu'on essaie de généraliser, dans ce sens-là, quelle serait la source de cette norme-là, ou alors est-ce qu'elle relève d'une courbe de normalité sur laquelle on essaie d'intervenir. Premier piège, ça serait celui d'une hypostase des normes, d'une trop grande généralisation des normes. Et puis, deuxièmement, il n'y a sans doute pas une opposition frontale entre l'individu et les normes, qui fait que les expressions de type « le combat contre les normes » n'ont pas beaucoup de sens, puisqu'elles laissent penser qu'il puisse exister un vivant hors normes, qui ne serait pas normé ou qui ne serait pas normatif par lui-même. Donc, nécessité d'éviter l'illusion d'heure des normes. Et troisièmement, lorsque nous invoquons une normalisation qui s'appuie sur les savoirs du cerveau, par exemple, nous parlons toujours d'un projet, parce que l'extension d'une norme est nécessairement une tentative, un idéal, qui sera sans doute jamais être complètement atteint. Donc éviter l'illusion d'une normalisation totale ou générale pour parler des projets partiels et spécifiques, même si ils peuvent se croiser dans des ensembles plus grands qu'on pourrait définir comme des ensembles de rationalité, etc. Enfin, le dernier point, et c'est important, nous n'affirmons pas qu'il y ait une science ou une technique unifiée qui normaliserait les comportements, mais des champs de savoir spécifiques qui tendent à réaliser certaines normes en les inscrivant dans les représentations et dans les pratiques des hommes de manière durable. Donc on n'est ni fonctionnaliste ni anti-science. Et il ne s'agit absolument pas pour nous d'être contre une science, encore moins d'être contre la science ou contre la technique, mais tenter de problématiser certains aspects, donc potentiellement normalisateurs, disons, d'un domaine de savoir, une fois que les notions de savoir et de normalisation sont stabilisées. Donc voilà, il me semble qu'à condition de prendre de telles précautions, évidemment ce n'est pas du tout exhaustif, on peut en trouver d'autres, il n'y a pas de raison pour laquelle le concept de normalisation devrait être abandonné comme un signifiant vide. Il peut au contraire être appliqué légitimement au domaine qui nous intéresse, le domaine multiple qui nous intéresse, comme la neuroamélioration ou la santé mentale, car ce concept-là se situe justement au chevauchement des savoirs et des politiques, là où, comme disait Canguilhem, on impose une exigence à une existence. Voilà, merci beaucoup.
Merci Ferhat. Bon, c'était le deuxième propos de cadrage général de notre réflexion dans ce séminaire. Et je voudrais donc proposer à mon tour un tel cadrage, un troisième cadrage, qui portera plus directement sur ce qu'on peut entendre par neuropolitique. Le terme lui-même, nous avons peut-être même pensé l'avoir inventé, on verra que nous venons après d'autres. Et lorsque, à plusieurs, nous nous sommes réunis il y a quelques mois, avec en particulier Lauriane et Mathieu Bellassène, pour envisager donc notre travail. Nous avons lancé ce terme-là qui nous semblait indiquer précisément ce croisement du savoir et de la politique que vient de mentionner Ferhat à l'instant. Évidemment, ce terme de neuropolitique mérite un premier examen et il n'est pas pour nous un terme définitif, il est justement un terme à interroger et à questionner quant à sa fécondité éventuelle. Au sens le plus large du terme, pour nous, dans cette première phase, dans cette première lancée en quelque sorte, par ce terme, nous désignons un ensemble de discours, de techniques, de stratégies qui visent à orienter ou à modifier des conduites en référence donc aux apports de ce champ de savoir qui est défini par l'étude du cerveau, par le terme de neurosciences. Et plus spécifiquement, comme on le verra au cours des séances suivantes, il s'agirait d'un ensemble de stratégies, de discours, de pratiques qui font référence à une technologie très particulière et qui est très diffusée maintenant, je dirais, dans la culture commune, qui est l'imagerie médicale et qui permet de visualiser les activations du cerveau en fonction des opérations qu'il fait, des émotions qu'il ressent, etc. Au fond, ce qui nous intéressera, c'est la façon dont on pense aujourd'hui une action possible sur les hommes par la médiation de leur cerveau et par en référence à des résultats de laboratoire, de recherche en laboratoire, que l'on pense pouvoir transposer dans des situations réelles, dans des environnements sociaux ou institutionnels les plus différents. Des usages, donc, qui devraient permettre d'améliorer des pratiques d'apprentissage dans le champ de la formation et dans le champ de l'école, qui permettraient de corriger des dysfonctionnements cérébraux. C'est la façon dont on traite aujourd'hui les maladies mentales, qu'on appelle maintenant de plus en plus des maladies du cerveau, mais qui permettraient aussi d'accroître la précision, la rapidité de calcul, qui permettrait de mieux fonder des décisions, par exemple des décisions judiciaires, puisqu'aujourd'hui les neurosciences ont fait leur entrée depuis un certain nombre d'années dans les cours de justice, et en particulier dans les cours de justice américaines. Donc vous voyez, c'est un ensemble d'usages extrêmement disparates dans des domaines extrêmement différents, et j'aurais pourrait mentionner également le domaine de l'économie et de la finance, où on prétend pouvoir optimiser les choix d'investissement ou les opérations des traders en étudiant leur cerveau et le fonctionnement de leur cerveau. Bon, avec des résultats qui, visiblement, ne sont pas toujours heureux. Bon, donc c'est au fond dans ce... L'ensemble de ces pratiques, de ces études et surtout de ces applications, c'est cet ensemble-là que nous désignons de ce terme extrêmement général de neuropolitique. Alors nous serons évidemment très très prudents, c'est-à-dire que au fond nous ne voulons pas prendre les déclarations des promoteurs de ces différentes formes ou branches de la neuropolitique pour argent comptant. D'une certaine façon, le triomphalisme des partisans de ces technologies, comme le catastrophisme, nous semble participer finalement d'une même croyance dans la réalisation effective d'un programme scientifico-politique. Or, nous ne pouvons pas aujourd'hui, me semble-t-il, préjuger de l'efficacité, de l'applicabilité, si je puis dire, de ces imageries médicales, par exemple. Mais cette prudence ne doit pas nous empêcher de prendre acte d'une série de transformations dans ce que nous appellerons le gouvernement des hommes, et pour reprendre ici encore, et une fois de plus, mais à un autre moment de ses travaux, une formule de Foucault. Alors, je voudrais d'abord essayer de considérer les significations du terme de neuropolitique, parce qu'il me semble, je vous dirais, de l'honnêteté de notre travail que de dire que ce terme a déjà été utilisé et dans des sens différents de celui dont nous ferons usage ici. Le terme existe déjà, et quand j'ai fait ma petite enquête, je me suis aperçu que les usages qui en avaient été faits étaient assez intéressants, et on verra pourquoi. La première occurrence, en tout cas dans un livre, est le fait d'un psychologue américain qui a eu son heure de gloire et qui s'appelle Timothy Leary. Et pour ceux qui ont eu le bonheur de vivre les années 60 et 70, il est connu pour avoir été, je dirais, l'un des champions de l'usage des drogues pour un usage expérimental, pour des pratiques d'émancipation ou de libération mentale des conditionnements. En un mot, Timothy Leary a été, la propagande qu'il a faite et par la diffusion auprès de ses étudiants d'Harvard de champignons hallucinogènes et de LSD, connu donc pour être un des champion de ce qu'on a appelé la contre-culture américaine, et évidemment, c'est surtout en Californie qu'il a eu son moment de gloire. Et donc, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Neuropolitique, sociobiologie de la métamorphose humaine », livre qu'il a écrit et publié en 1977. Il en a écrit d'autres qui vont tous dans le même sens, expérience psychédélique ou politique de l'extase. Je mentionne parce que ce sont des ouvrages qui ont eu une certaine influence sur des milieux de la contre-culture, mais je crois plus profondément dans une certaine représentation des rapports entre des substances et des effets, et en particulier des substances et des effets politiques que l'on peut attendre de leur prise. Au fond, premier étonnement, c'est que le terme de neuropolitique n'est pas du tout un terme, je dirais, qui participerait d'une normalisation, d'un pouvoir, mais au contraire, un terme qui a été utilisé dans un moment de contestation. Plus étrange encore, c'est précisément que cette contre-culture américaine s'est appuyée, au fond, sur le développement de la psychopharmacologie des années 50-60, c'est-à-dire, au fond, sur quelque chose qui, par contre, était sans doute très normalisant, c'est-à-dire, finalement, le traitement de toute une série de maux de civilisation, si je puis dire, de formes de répression de la sexualité, de formes de dépression, etc., les médicaments, et l'on sait à quel point ceci a pris de l'ampleur depuis. Deuxième chose intéressante, c'est le fait que cette contre-culture, et en particulier les thèses de Timothy Leary, se sont appuyées sur une littérature de science-fiction qui a anticipé d'une certaine façon ce qui allait se passer. Et je pense en particulier aux livres très fameux et très répandus dans les années 60-70, qui sont les livres d'Aldous Huxley, non seulement Le meilleur des mondes, mais qui est la vision négative, mais le roman qui s'appelle Island, l'île, qui au contraire donne une version positive de l'usage de substances libératrices. C'est une première occurrence du terme. Je le mentionne parce que, si on a le temps, on verra qu'aujourd'hui, Google, dans sa stratégie transhumaniste, a aujourd'hui comme projet, en particulier à travers un certain nombre de ses dirigeants, comme projet la réalisation de l'utopie de Leary, en particulier de recul de la mort, la lutte contre la mortalité, la conquête de l'immortalité, et ceci avec des choses qui ressemblent assez étrangement à ce qui pouvait se dire dans un tout autre champ et dans un tout autre contexte dans les années 50 et 60 surtout. Deuxième usage, la neuropolitique aujourd'hui est une branche, si je puis dire, des neurosciences appliquées. La neuropolitique, en fait, le terme existe et qu'on pourrait définir comme science biologique de la politique, à mettre entre guillemets, bien entendu. Ce terme, au fond, est à mettre, à ce moment-là, au même rang que celui de la neuroéconomie ou de la neuroéthique ou du neurodroit. C'est un secteur spécialisé des neurosciences, une sorte de sous-section, en quelque sorte, des neurosciences appliquées. Cette science appliquée vise à établir un lien entre le fonctionnement du cerveau, ou son anatomie d'ailleurs, et des choix idéologiques et politiques. On peut en donner quelques exemples très rapidement. Par exemple, une équipe de neurologues londoniens fait passer un questionnaire à une centaine d'étudiants, puis une série d'IRM sur les mêmes, et permettrait de montrer que le cortex singulaire antérieur, qui régule la gestion du conflit et de l'incertitude, est plus gros chez les gens de gauche, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon les libéraux, et que les gens de droite. Par contre, l'amygdale cérébrale droite, impliquée dans la gestion de la peur, l'insula liée au dégoût, sont beaucoup plus développées chez les gens de droite. Bon, alors, vous riez, mais vous n'avez pas encore entendu le fait que cette formidable découverte pouvait être vérifiée empiriquement, puisqu'elle marche sur des gens à qui, sur des étudiants, pour lesquels on peut prédire 3 fois sur 4 leur orientation politique à partir des dimensions des différentes parties de leur cerveau. Bon. En gros, ça signifie que la gauche et la droite sont des réalités cérébrales. Ce qui ne vous avait pas échappé. Bon, on fera. Il y a un IRM là, à la sortie. Alors, ce qui suppose quand même, évidemment, ce ce qui suppose évidemment dans ce genre d'enquête qu'on part d'un postulat que la gauche c'est le changement et que la droite c'est la conservation. Vous avez évidemment pu observer, comme on sait, le changement c'est maintenant, comme vous l'avez tous compris aux dernières élections. Bon. Alors, je pourrais passer sur des... Il y a des tas de recherches qui vont dans le même sens. Et certaines enquêtes aux États-Unis ont fait l'objet de débats absolument considérables et ont même permis, d'une certaine façon, de ridiculiser ce genre de recherche de neuropolitique. En particulier, l'une des plus fameuses enquêtes qui était parue à grand bruit dans le New York Times lors de l'élection de 2008 montrait qui cherchait en fait à étudier les réactions des électeurs hésitants entre les démocrates et les républicains et qui se concluait par le fait que en mesurant l'activité des zones cérébrales différentes selon les candidats qu'on leur présentait, eh bien permettait de montrer que Obama et McCain étaient ceux qui laissaient le plus indifférents les gens qui avaient été testés. D'autres travaux qui vont dans le même sens ont eu aussi une grande diffusion et ont fait l'objet de débat considérable aux États-Unis, en particulier les travaux d'un professeur et psychiatre de Harvard, de l'université de Harvard, Drew Westen, qui dans un ouvrage qui s'appelle Political Brain, montrait que l'électeur n'était en rien rationnel, qu'il était émotionnel, et comme Westen est un démocrate convaincu, il essayait de convaincre donc le camp démocrate de ne plus utiliser du tout d'arguments rationnels, de ne plus utiliser du tout de chiffres, mais de ne fonctionner qu'à l'émotion, qu'au récit, etc. Bon, voilà. Voilà. Donc, au fond, pour résumer les choses, dans cette signification-là, neuropolitique renvoie à, je dirais, l'étude donc de ce rapport cerveau argument politique ou image politique pour améliorer la communication politique, exactement comme le marketing, le neuromarketing cherche à étudier la façon dont réagissent des sujets à des images, à des slogans, etc. Au fond, c'est une sorte de nouveau domaine assez rentable visiblement pour les agences de communication. Elles partent tout à peu près du principe qu'il existe des cerveaux de gauche et des cerveaux de droite. Je crois qu'il faut être extrêmement clair là-dessus, c'est que toutes ces études-là partent vraiment d'un principe qu'on sait ce qu'est un sujet de gauche et un sujet de droite, et que à partir de ces orientations idéologiques et politiques, on peut mettre en évidence un certain nombre de fonctionnements cérébraux. Dans un troisième sens, neuropolitique vise au fond l'usage des neurosciences dans l'évaluation et l'amélioration des politiques publiques. C'est l'idée que la politique, non plus au sens de combat, de compétition politique électorale, mais que la politique au sens de policy, est une affaire qui peut être fondée sur l'étude du cerveau, qui peut être fondée sur la preuve. De la même façon qu'on a une médecine fondée sur la preuve, on peut avoir une politique fondée sur la preuve. Cela nous concerne de près, puisque depuis 2009, dans le cadre du Centre d'analyse stratégique auprès du Premier ministre, il y a tout un programme neurosciences et politique publique qui s'est mise en place et qui a d'ores et déjà donné lieu à une série de rapports qui concernent en particulier le droit. L'un des promoteurs de cette orientation, qui s'appelle Olivier Houllier, est quelqu'un qui se répand un peu partout, en particulier dans la presse bien orientée, dans les échos. Il se répand pour vanter la l'utilité de ce genre d'études, surtout à une époque où les politiques publiques, visiblement, ont du mal à être financées. Et c'est ainsi que dans les Échos, il explique qu'après avoir voyagé, avoir été reçu au 10 Downing Street et à la Maison Blanche, il s'est aperçu que et Obama et Cameron utilisaient de façon systématique désormais les travaux neuroscientifiques pour améliorer la communication politique et, plus que la communication, l'efficacité des politiques publiques. Et selon lui, il est temps en France de s'y mettre. Et c'est ainsi qu'il explique que donc les sciences comportementales, je cite, et les expériences de terrain ne doivent pas être l'avenir des politiques publiques, mais leur présent. Il faut dès aujourd'hui intégrer des faits rigoureusement mesurés et quantifiés dans des conditions réelles et cesser de se reposer sur des idéologies et des méthodes du siècle dernier. Donc là, dans ce sens, la neuropolitique désignerait donc une science de la politique fondée sur les études, disons, les recherches neuronales. Eh bien, c'est dans un tout autre sens, évidemment, que nous utiliserons le sens de neuropolitique. Nous ne cherchons pas à améliorer les politiques publiques, nous vous l'annonçons tout de suite. Nous cherchons plutôt à examiner, enfin, nous, ce que nous ferons dans ce séminaire, à examiner, au fond, les formes d'action, de stratégie, qui vise à modifier les conduites par le moyen de la connaissance du cerveau. Encore une fois, il ne s'agit pas pour nous de crier à la manipulation par des camisoles chimiques ou par le fait que chaque recherche déboucherait sur une application médicamenteuse. Il s'agit plutôt de considérer un phénomène assez différent qui est l'avènement d'un certain régime de savoir et de pouvoir qui a pour centre, foyer et cible le cerveau. Un cerveau qui, dans cette vaste littérature qui est à la fois savante mais aussi médiatique, un cerveau qui semble, je dirais dans la culture, prendre la place ou le relais du sexe et du langage sans doute a dominé au XXe siècle dans le discours psy, lequel, d'une certaine façon, soit est transformé dans l'intérieur par les neurosciences, soit est marginalisé comme, justement, des méthodes inefficaces, voire le rapport de l'INSERM il y a quelques années, soit comme totalement dépassé, etc. Donc, il ne s'agit pas tant ici de critiquer un réductionnisme biologique que de considérer cet avènement du cerveau comme un événement dans l'ordre du pouvoir. Et comme on le verra dans les séances suivantes, il a fallu sans doute des conditions historiques très particulières pour que cet avènement de l'âge du cerveau dans le registre du pouvoir ait pu avoir lieu. Et donc ce qui nous intéressera, c'est ce qu'on pourrait appeler cette gouvernementalité cérébrale qui nous semble guider, qui nous semble accélérer une croyance intellectuelle et un investissement financier très important aujourd'hui dans des recherches neuroscientifiques. Nous ne disons pas que c'est en quelque sorte l'effet du néolibéralisme. Disons plutôt que pourrait, en tout cas c'est ce dont nous pourrions discuter, une des choses qu'on pourrait discuter, c'est peut-être, nous assistons peut-être à quelque chose qui serait une modification du néolibéralisme, en tout cas une modification de ses points d'appui. Non pas un abandon du néolibéralisme, non pas quelque chose d'autre, mais plutôt finalement une manière pour le néolibéralisme de se ressourcer, de prendre appui sur d'autres sources, par exemple sur d'autres sources que l'économie politique standard, que la science économique standard, qui traîne avec elle une certaine lourdeur, si je puis dire, un certain embarras qui est celui de l'homme économique rationnel. Ce qui est assez intéressant, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le néolibéralisme peut se débarrasser de quelque chose qui lui a bien servi, qui faisait partie de la tradition intellectuelle et politique du libéralisme, l'utilitarisme de l'homme économique, que le néolibéralisme est en train de s'en débarrasser pour s'appuyer sur ce que certains appellent l'homme émotionnel ou sur l'homme neuronal ou l'homme cérébral. En tout cas, ça sera quelque chose à discuter. Alors, pour terminer mon propos, je dirais que il y a un certain nombre de postulats qui se dégagent du champ neuroscientifique et qui viennent nourrir ces formes diverses de la neuropolitique. Pour les passer rapidement en revue, je dirais ceci. Premièrement, les neurosciences affirment que nous obéissons à des mécanismes neuronaux que nous ne contrôlons pas. Et il a été question de réductionnisme, bien souvent, en tout cas, dans les propos les plus courants et peut-être les moins contrôlés, c'est l'idée que l'esprit, c'est le cerveau, et que le cerveau est inconscient. C'est une thèse assez forte, en tout cas assez diffusée, qui est celle de l'inconscient cérébral. Ce qui signifie également que tout ce qui s'est inscrit aujourd'hui dans la culture comme inconscient est reconverti et recodé en inconscient neuronal. Le deuxième postulat pourrait être qu'on peut isoler aujourd'hui, on prétend pouvoir isoler et identifier des mécanismes inconscients qui président aux émotions, au raisonnement, au jugement, au choix, et qu'on peut surtout, et je pense que ça a un effet assez considérable aujourd'hui, qu'on peut visualiser ces fonctionnements par l'imagerie, par résonance magnétique fonctionnelle. On suppose que par cette visualisation, on a accès directement à ce qui se passe dans le cerveau et qu'on peut rapporter systématiquement les activations vues à de telle ou telle zone, à tel ou tel sentiment ou à telle ou telle opération intellectuelle, ce qui est évidemment particulièrement problématique. Le troisième affirmation, le troisième postulat, et politiquement peut-être le plus important, et qui dit qu'au fond, nous sommes évidemment les sujets de cet inconscient cérébral, mais que si nous sommes notre cerveau, comme certains le disent, si nous sommes notre cerveau, nous pouvons néanmoins être agis par lui, ou agir sur lui, à partir du moment où nous le connaissons, où nous en avons une certaine carte, une certaine image, et cette action sur le cerveau passe par des exercices, des pratiques, des stratégies d'apprentissage ou des transformations du milieu, dont il a été question tout à l'heure. En fait, je crois qu'une des choses dont il faudrait particulièrement se méfier, c'est l'idée selon laquelle nous n'aurions affaire qu'à une naturalisation du social, comme le disent les sociologues qui critiquent cette tendance, ou qu'à une biologisation de la morale, comme le disent d'autres philosophes. En réalité, il y a quelque chose qui me semble particulièrement important et particulièrement opératoire, si je puis dire, du point de vue de la gouvernementalité. C'est le fait que le cerveau est posé, si je puis dire, comme le produit, un produit évolutif, comme le résultat de conditions environnementales et sociales du fait de sa plasticité. Je crois qu'un des concepts fondamentaux, au fond, qui se dégage des neurosciences, c'est celui de plasticité, qui est beaucoup plus opératoire que le gène. On pourrait imaginer une politique du gène, on a parlé d'une politique du gène. Seulement, le gène est, semble-t-il, moins plastique, si je puis dire, que le neurone. Et je pense que l'insistance que l'on rencontre dans cette littérature sur la plasticité du cerveau est un formidable levier pour la neuropolitique dont nous parlons ici. Alors évidemment, avec toutes sortes de paradoxes, tiennent précisément au fait que nous sommes à la fois notre cerveau et que notre esprit est notre cerveau, mais qu'en même temps, nous pouvons agir sur le cerveau, donc le cerveau agit sur le cerveau, semble-t-il, par des torsions que Canguilhem, dans d'autres textes remarqués, dont il remarquait la bizarrerie. Au fond, donc, nous aurions ces trois grands postulats sur lesquels il faudrait réfléchir. Détermination de la conduite par l'inconscient cérébral, possibilité d'une connaissance fine, précise des zones d'activation du cerveau, et champ d'action sur le cerveau, domaine d'action par des pratiques, des stratégies à définir, qui peuvent être évidemment des stratégies médicamenteuses, mais qui peuvent être aussi des actions sur l'environnement, des actions sur le milieu, qui peuvent être des exercices que l'on peut faire. Et il y a aujourd'hui, on aura l'occasion de le voir tout un, ce qu'on pourrait appeler un neurobusiness, qui propose, à prix coûtant, à prix élevé, de modifier, d'améliorer, de transformer le cerveau de ceux qui veulent bien se prêter à ces exercices. Voilà, j'ai envie d'arrêter là. Je terminerai juste en... Non, mais parce que il nous restera une demi-heure pour discuter. Là, il faut que j'interroge mon cerveau. Enfin, comme je dis, c'est mon cerveau, ce qu'il a envie de faire, quoi. Bon. Cerveau, que veux-tu? Bon, donc, alors, pour terminer, je voulais juste... énoncer, mais rapidement, un certain nombre de conditions culturelles, économiques et politiques de cette neuropolitique à laquelle nous pensons que pouvoir observer l'expansion, la diversification. Je crois que je reprendrai ici l'expression utilisée par un certain nombre de chercheurs qui parlent d'une neuroculture pour désigner le fait que, au fond, ces techniques de pouvoir appuyer sur des technologies, en particulier d'imagerie, s'appuie sur donc une très large diffusion auprès du public d'une représentation de l'homme comme cerveau. Point que certains ont pu parler de l'avènement d'un nouveau sujet cérébral, mais sujet cérébral dans la culture. Hein. Donc, question, est-ce que, précisément, pour que se développent ces neurosciences, pour que se développent les applications de ces neurosciences, n'a-t-il pas fallu quelque chose comme un savoir, justement, un savoir de l'homme, un savoir de l'homme qui pouvait l'identifier, qui disait, en quelque sorte, que l'homme était identique à son cerveau, hein. Je pense, et on aura l'occasion de le voir la fois prochaine, la prochaine séance, qu'un certain nombre d'écrits et d'auteurs ont marqué leur époque et ont inscrit d'une certaine façon dans leur temps cette identification de l'homme au cerveau. Je pense évidemment à Changeux et à son homme neuronal et à cette phrase qu'on trouve dans ce texte qui dit par exemple d'une façon un peu peut-être faussement naïve « Désormais, à quoi bon parler d'esprit ?» puisque précisément nous sommes le cerveau. Un changeux qui, d'une certaine façon, annonce aussi une promesse. Je pense que parmi toutes les conditions culturelles de cette neuropolitique, il y a une grande promesse que Changeux résume ainsi. Les neurosciences, dit-il, vont nous apporter une nouvelle vision, une nouvelle conception de l'homme et de l'humanité. Je crois que là, les choses sont dites assez clairement. Nous devons de réfléchir plus avant aux conditions qui vont peut-être, il est quand même prudent l'homme, hein, qui vont peut-être apporter plus de qualité de vie et de bonheur de vivre aux hommes, puisque tel est bien après tout notre but. Hein. Bon, c'est gentil scientifique, ils sont vraiment gentils de penser à notre bonheur. Et donc l'enjeu pense très fort, c'est le fait que toutes ces techniques et ces applications veulent le bien-être, le bonheur, l'amélioration de l'homme. Donc, deuxième chose, j'en ai parlé, c'est évidemment un scientisme et une certaine forme de biologisme, j'en ai parlé, avec quand même, encore une fois, une réserve sur ce type de critique, dans la mesure où le postulat de la plasticité du cerveau est une passerelle ouverte vers l'ensemble des sciences humaines, et en particulier en direction de la sociologie, qui aujourd'hui se présente comme une espèce de rempart, je dirais presque humaniste, face à l'expansion des technosciences. Mais en réalité, je crois que les choses sont plus complexes dans la mesure où il est assez facile de traduire les formes de socialisation, les imprégnations, les incorporations, comme disait Bourdieu, dans un langage neuroscientifique. Il est très facile de recoder l'ensemble de la littérature et du lexique neuroscientifique dans les termes de la sociologie. Et d'ailleurs, il se dit beaucoup que Bourdieu était très intéressé par les neurosciences et qu'il cherchait à convertir d'une certaine façon son habitus, son concept d'habitus, en des termes neuroscientifiques, ce qui d'ailleurs a été fait directement et après sa mort par Jean-Pierre Changeux dans un texte et dans une communication qui est devenue un texte qui s'appelle « Les bases neurales de l'habitus ». Donc, je pense qu'il faut se méfier d'une critique trop facile qui consisterait à dire que nous avons affaire à une désocialisation de l'homme, à une abstraction d'un homme qui serait complètement retiré du champ social. Je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées et d'une certaine façon beaucoup plus problématiques, voire plus dangereuses, parce qu'en effet, si nous pouvons atteindre le cerveau par le social, évidemment, nous avons là exactement ce que a visé, comme nous l'avons montré dans notre livre sur le néolibéralisme, qu'a visé le néolibéralisme précisément à construire des situations, à construire des environnements, à travailler sur les environnements pour modifier les conduites. Mais là, il ne s'agit pas seulement de modifier les conduites, mais de modifier en profondeur les anatomies même des individus. Et c'est dans les textes de Bourdieu ce que on trouve également, c'est-à-dire cette idée de l'incorporation, de l'inscription corporelle des formes sociales. Alors, je ne veux pas dire que Bourdieu, qui est mort en 2002, aurait tout à fait adhéré à la chose. Je dis que les passerelles sont possibles et sont déjà tendues, d'une certaine façon. Autre élément, je vais rapidement, c'est l'intérêt politique des États pour les neurosciences. Et on ne peut pas faire comme si on ne savait pas que les États, depuis les années 90, sont partie prenante de cette expansion. Bush, 1990, Bush père qui décrète impérialement la décennie du cerveau. Obama qui poursuit avec sa Brain Initiative en avril 2013 et qui met des milliards sur la table pour faire quelque chose d'encore un peu vague, mais qui serait l'équivalent de ce qui a été fait pour le génome humain, le projet du génome humain, c'est-à-dire quelque chose d'aussi ambitieux. Mais là, évidemment, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de neurones que de gènes. S'il s'agit de faire la carte des neurones, comme Obama l'a dit, il y a quand même, je crois, 100 milliards de neurones à repérer, ce qui ne va pas être très facile. En plus, bon, ça bouge et ça change, ça meurt et ça se développe. Bon, ça va être un peu difficile. Mais l'Europe a développé à son tour un Human Brain Project, en européen dans le texte, et ces différentes initiatives partent toutes de l'idée que le cerveau sera la force économique primordiale dans le monde globalisé. Je reprends les expressions du lexique et de la langue de bois. Et ceci, c'est mon commentaire, et ceci me semble faire partie de ce que j'ai envie d'appeler la guerre du cerveau, Brain War, qui est une lutte mondiale qui fait rage, en particulier dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Lorsque vous apprenez qu'un certain nombre d'universités diminuent ou annulent les droits d'inscription pour les étudiants qui ont un QI supérieur à 130, vous vous demandez si nous ne sommes pas effectivement entrés dans un univers où effectivement le critère du cerveau, de la potentialité cérébrale ne va pas être quelque chose de déterminant. En tout cas, c'est un motif essentiel dans les investissements qui sont consacrés. Alors certes, il y a des arguments comme celui du vieillissement de la population, de l'expansion, du coût élevé des maladies neurodégénératives. Il y a également des arguments qui tiennent au fait que, comme le dit le projet européen, un tiers de la population européenne est affectée par une maladie psychiatrique ou neurologique, et que donc le coût est considérable, et que si on arrive par les neurosciences à le réduire, ça sera évidemment un gain formidable de compétitivité. Donc voilà quelques éléments qui doivent être pris en compte, me semble-t-il, pour considérer à quel point ces neurosciences sont d'ores et déjà comprises dans des stratégies politiques, qui sont des stratégies globales, tous les sens du terme, stratégies politiques globales, qui font partie de stratégies étatiques, mais qui, en même temps, trouvent des applications sectorielles, ponctuelles, extrêmement diverses, à partir d'un certain nombre de postulats que j'ai rapidement évoqués, qu'il nous faudra interroger. Voilà, ben il nous reste 20-25 minutes pour discuter de tout ça.
Dans votre intervention, vous avez fait mention d'un article de 2006, mais qui relevait. Mais, pardon ?
2007.
D'accord, mais vous n'avez pas dit qu'il est scientifique.
Alors, en l'occurrence. Non, pas du tout.
C'est 2007.
Non. Il porte un nom que je devrais pourtant. Non. Dans une revue de psychologie cognitive.
Oui, mais il y en a beaucoup, donc ça m'intéresse.
Oui, bien sûr. Non, mais. Je vais le retrouver, je vous le dis. Ne vous inquiétez pas.
Question suivante.
Vous vouliez juste savoir ça ?
Non, pas du tout, j'ai d'autres choses à dire. Alors, je trouve l'attaque contre Jean-Pierre Changeux assez basse, parce que je pense que c'est un homme optimiste qui s'est beaucoup intéressé à l'art. Et qui a écrit beaucoup de choses en rapport avec ça. Je crois que c'est un homme qui s'intéresse à la beauté du monde également, et que comme tout scientifique que vous devez connaître, il était aussi obligé de produire des résultats. Parce que pour avoir des budgets, être intégré à des équipes, il faut apporter des preuves et des résultats. Bon, et vous avez bien fait de mentionner l'intérêt de Bourdieu pour lui, parce que j'ai suivi leurs deux cours tout à fait en amateur, et j'ai fini par lire leur livre. Et vous avez bien fait de le mentionner, parce que le dernier cours de Bourdieu portait sur le fameux tableau le déjeuner sur l'herbe. Et je pense que l'intérêt de Changeux pour la peinture et la musique en particulier n'était pas sans l'indifférence pour Bourdieu. Donc, je pense que ceci étant posé, j'aimerais savoir si vous avez l'intention de parler de ce manuel américain qui s'appelle le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, qui a beaucoup d'importance aux États-Unis et que beaucoup de médecins français commencent à utiliser. D'autre part, je me rappelle plus du scientifique ou sociologue qui s'est référé dans une émission télévisée très intéressante sur l'utilisation de ce test militaire qui imprime aux gens dans un entretien, un test de cruauté,
oui,
où on influence quelqu'un. C'était complètement faux, mais dans l'armée, c'est utilisé. Et ça, c'est une utilisation des neurosciences et du comportementalisme qui est quelque chose qui est à l'œuvre dans le monde du travail aujourd'hui, dans les relations humaines et les ressources humaines. Donc ça, je ne pense pas qu'on puisse s'amuser avec. Quant au neuromarketing, c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis très 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 longtemps. Et aujourd'hui, on est au marketing sensoriel. Et j'en parle de manière très intéressante quand je suis dans un milieu de connaisseurs. Aux États-Unis, il y a un professeur qui a eu un prix Nobel de médecine sur les recherches sur l'olfaction, qui sont directement liées à tout ce marketing neurosensoriel, qui s'appelle Richard Axel. Et une de ses premières, c'est même pas lui qui l'a décidé, c'est une de ses premières applications été commerciales, mais utilisées par des laboratoires qui lui ont, je crois, à peine demandé l'autorisation, c'était d'utiliser l'olfaction pour créer des parfums à base de phéromones, entre guillemets, parce que ça n'existe pas vraiment, pour donner une aura jeune à des femmes de 60 ans. Parce que ce que vous avez mentionné sur la jeunesse éternelle, etc., c'est quelque chose qui est à l'œuvre. Mais il faut faire le distinguo entre les charlatans ou les gens qui exploitent commercialement de manière compatible des connaissances et des gens très sérieux, notamment en France, qui font des recherches dans ces domaines, qui sont vraiment très sérieuses et très intéressantes. Voilà.
Merci.
J'ai fini, mais je voudrais bien avoir le nom de votre...
Et je suis désolé.
Oui, juste pour vous répondre, je crois qu'il n'y a pas d'attaque basse. Simplement que les scientifiques aient à apporter des résultats, tout le monde en est convaincu, mais tous les scientifiques ne promettent pas le bonheur. Ils ne se donnent pas comme but le bonheur. Donc c'est simplement le fait qu'un scientifique se promet, de certaine façon, et se donne comme but, c'est ce qu'il dit, se donne comme but. Le bonheur de tous, bon, c'est à interroger, disons, du point de vue d'une philosophie politique. On sort là assez clairement du champ du laboratoire.
Je suis pas sûr qu'il est vraiment proposé le bonheur pour tous.
C'est ce qui est dit. Deuxième chose, puisque vous avez posé la question sur le DSM, il en sera question. Je pense qu'il en sera notre question. Mathieu Bellassène, qui est psychiatre, on parlera soit le 12 mars quand il interviendra, soit le 14 mai où il sera question de psychiatrie. Hein. Donc si vous avez la patience et la gentillesse de revenir nous voir, on aura au moins deux séances où on pourra poser cette question très, très particulière. Il y a peut-être d'autres...
Non, juste une remarque sur les romans, parce que vous avez parlé de la science-fiction.
Aldous Huxley.
Je pense qu'il y a un roman que tout le monde oublie, c'est celui d'Evgeny Zamyatin qui s'appelait Nous autres, qui est un homme qui a fini à Paris, qui est mort dans l'oubli total, et c'est un des premiers romans de science-fiction dont Aldous Huxley et d'autres se sont inspirés. Tout le monde l'oublie. Alors j'engage tout le monde à le lire, c'est beaucoup plus intéressant, et c'est un russe, un soviétique qui l'a écrit. Alors, je vous engage à lire, ça existe en livre de poche et c'est très intéressant.
D'accord, merci de ce conseil.
Moi, je me posais juste une petite question dans le cerveau de gauche et le cerveau de droite. Où est le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme?
Je crois que c'est le cerveau du centre.
Parce qu'avant, il y avait le cerveau plat.
Où sont les centristes?
Avant, il y avait le cerveau de l'homme, le cerveau de la femme, vous voyez. Il n'y a pas de cerveau. Et là, maintenant, est-ce à cause de la théorie des genres que tout le monde aussi?
Oui.
Comment ils placent ça brusquement? On n'ausculte que les mecs.
Je suis désolé.
De gauche à droite.
Non, mais je crois que Catherine Vidal, neurobiologiste, travailler là-dessus. Il y a des travaux aux États-Unis justement sur les cerveaux de garçons, blue brain, et les cerveaux des filles, les pink brain. Donc ceci a déjà été étudié, c'est-à-dire la façon dont, mais pas forcément, justement pas dans une version qui soutient ça, mais au contraire qui montre que au contraire, beaucoup d'études, de travaux, etc., partent de préjugés, justement, de cet endroit-là.
Oui. Réduire le cerveau à l'inconscient neuronal, c'est quand même un raccourci énorme, et je pense que là, on pourrait dire qu'on est dans un fétichisme généralisé. Et là, l'homme n'a plus besoin de parler, bien entendu, à ce moment-là, il n'a plus qu'à se taire, le discours d'expert va penser à sa place. Et par la même... Ce qui va être évacué, c'est plus d'une chose, c'est le rêve, la capacité de le rêve, l'histoire, la critique du jugement, toute la pensée des Lumières, les images inscrites qui donnent la parole. c'est énorme en quelque sorte. En quelque sorte, je pense que ça conduit à Auschwitz. C'est pas un raccourci que, Et pour répondre à madame sur la beauté de Jean-Pierre, dont a parlé Jean-Pierre Changeux, je voudrais lui rappeler aussi que la beauté, c'est peut-être une question de finalité centrale. C'est pas une question d'esthétisation de la politique. À un certain moment donné, je voudrais lui rappeler la belle phrase de Robert Filliou qui dit « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. »
Non, je voudrais faire
et la belle exposition, quand les attitudes deviennent des formes, qui va en renversement de que ces formes qui nous sont formatées et qui conduisent à la fabrique de clones tous les jours, un peu plus.
Je voulais vous dire que j'étais très intéressée quand vous avez fait la situation entre le mot discours et le mot science. Qu'une science naissait à l'intérieur du discours et qu'elle gardait un rapport avec tout le temps de sa vie. Alors, j'ai pas tout compris tout ce qui s'est passé ce soir. Mais ça, c'est déjà un point de départ que je trouve vraiment très intéressant. Et donc, personnellement, je trouve que les études en neurosciences sont forcément quelque chose de très intéressant. Tout simplement parce que ça me paraît absolument pas possible qu'on mette à la poubelle tout ce qu'une époque est en train de découvrir et d'être capable de savoir. Alors, l'idéologie qu'on tire de choses observées et qui sont du point de vue du marketing ou autre, utilisé par différentes forces, ça je crois qu'on peut très nettement lutter contre. Je veux dire, à chaque fois qu'on peut repérer un usage qui est vraiment... Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'on ne peut pas dire que, par exemple, je ne vois pas pourquoi on opposerait le mot esprit et le mot neuroscience. Bon, il y a vraiment des gens qui, je le sais, s'en rencontrent, qui veulent me faire croire que il faut que je mette tout ce qui est de l'ordre de la vie de l'esprit qui se passe, tout ce qui se passe avec le langage, par exemple, intérieurement et au niveau de la science. Bon, je ne les crois pas, je bagarre avec eux. Voilà. J'ai pas complètement compris l'endroit où se situait la question de la normalisation. C'est tout ce soir.
Oui, bah, oui, on prend de, voilà, et puis après on.
Non, juste un mot d'abord pour vous remercier pour ce bel exposé, ce sujet transversal, si l'on est, qui a stimulé mon cerveau accessoirement, sans avoir pris quoi que ce soit très intéressant. Oui, j'ai bien un mot que vous avez utilisé, Christian, au moment de parler de mortalité et la promesse de Google, la quasi-promesse. Vous avez utilisé le mot transhumanisme, qui est effectivement un mot qui est venu à l'esprit au cerveau avant que vous ne l'employiez vous-même. Et je m'interrogeais sur l'articulation de tout ce que vous avez dit ce soir, et notamment la première présentation, l'articulation entre transhumanisme et neuropolitique, et puis ce que vous avez dit sur le réductionnisme, le fonctionnalisme, etc. Comment on insère ce terme de transhumanisme ? Vous avez d'ailleurs parlé à un moment donné de résistance humaniste. Comment ce terme de neuropolitique s'agrège ou se complète ?
Alors, le transhumanisme, au sens le plus direct du terme, c'est une idéologie. Ce que je veux dire par là, je laisse de côté la fonction de légitimation, la fonction d'occultation dont j'ai parlé, à propos du sens qui était répandu dans les années 70 du mot idéologie, et je considère uniquement le sens trivial, presque ordinaire, qui est qu'une idéologie, c'est un système qui fonctionne avec une certaine cohérence, une cohérence minimale, et dans cette mesure-là, on peut dire qu'avec le transhumanisme, on a affaire à une idéologie qui est formée, qui a ses représentants, qui a ses écoles, qui a l'université de la singularité. Donc il y a une sorte de sélection comme ça des cerveaux les plus prometteurs dans le cadre d'une formation très intense pendant l'été sur un campus. Bon, tout cela existe, ça fait partie des choses qui doivent être connues. Il y a donc un appareil au sens institutionnel du terme. Il y a des revues, il y a une diffusion de cette idéologie. Et effectivement, on peut dire que, d'un certain point de vue, il renoue avec une idéologie qui a eu cours sous l'Angleterre victorienne, qui était celle de Spencer, puisque Spencer, à la fin du XIXe siècle, pariait sur le fait que les maux dont l'humanité souffrait allaient disparaître très prochainement, grâce justement au progrès irrésistible de la science. La différence, c'est que là, il y a un esprit, comment pourrait-on dire, c'est même plus que néolibéral, c'est libertarien. Voilà. Du point de vue de l'idéologie, ce sont des gens qui sont en général très greffés sur ce qu'on appelle aux États-Unis le libertarianisme, qui va beaucoup plus loin encore que le néolibéralisme, puisque ce sont des gens qui considèrent qu'il faut un marché de l'État et que l'État n'est simplement que celle des agences de sécurité qui a réussi à l'emporter dans une lutte impitoyable entre des agences concurrentes. Voilà. Donc ça va assez loin. Alors ils se reconnaissent dans Nozick, notamment, dans un philosophe libertarien qui est assez important aux États-Unis. Mais donc je dirais que c'est une idéologie. Donc je ne ferai pas la confusion entre la neuropolitique et cette idéologie. Je dirais justement qu'il y a une distinction à faire entre l'idéologie transhumaniste, entre les usages ou les applications d'une science, et enfin, troisièmement, entre le savoir et la science. Alors moi, j'ai mis l'accent plutôt sur la relation entre le savoir et la science, dans la mesure où il me paraissait que cette relation-là ne pouvait être pas du tout pensée comme une simple relation d'application. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une façon de critiquer. Par exemple, il y a une façon de critiquer une science qui est en même temps de la renforcer, qui est une manière de la renforcer, y compris dans ses aspects parfois les plus négatifs, qui est de dire, elle est bien prise en elle-même, dans sa pureté, finalement, mais considérée dans ses applications, on s'aperçoit qu'il y a de la perversité qui entre en jeu et qui fait que les applications sont mauvaises alors que la science est bonne. Si j'ai introduit la notion de savoir telle que je l'ai compris dans le texte de l'archéologie du savoir, c'est précisément pour éviter ça. Parce qu'il me semble que ça, c'est quelque chose d'assez dangereux. L'idée que, justement, la science existerait de façon pure et qu'elle donnerait lieu à des applications mauvaises. Non, ce qui me paraît intéressant, c'est de porter le fer dans la science elle-même, c'est-à-dire dans le rapport qu'elle entretient avec un savoir qui n'est pas explicité, qui, la plupart du temps, n'est absolument pas explicité, mais qui, par contre, continue effectivement de nourrir l'activité des chercheurs à l'intérieur de cette science. Donc c'est ça, plutôt, qui m'intéressait. Alors, concernant la neuropolitique elle-même, bon, ce qu'a dit Christian me paraît d'autant plus important que, justement, ça va peut-être permettre de répondre à certains aspects, en tout cas de la question, je suis désolé pour l'identité nominale, mais j'y reviendrai puisque j'utiliserai de toute façon dans le prochain exposé cette contribution que je trouve assez remarquable, où il est notamment question de la menace d'une nouvelle phrénologie à propos de la neuroimagerie cérébrale. Vous voyez que c'est assez précis, mais malheureusement, je ne me souviens pas du nom de la personne qui a écrit ce texte-là. Mais en revanche, il me paraît intéressant de revenir un petit peu sur ce que Christian a dit concernant justement le lien entre Bourdieu et Changeux. Parce que là, je crois qu'on touche à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la polémique, qui est très important à comprendre, dans la mesure où, alors je le dis d'une façon très directe, il y a un certain nombre de gens avec lesquels on travaille, d'ailleurs de façon plus ou moins régulière, qui sont des économistes, qui sont des collègues, des camarades, des amis, pour certains d'entre eux, qui effectivement ont à l'égard des neurosciences, comme type de savoir, une attitude que j'aurais, pour ma part, tendance à considérer comme très ambiguë. Et je vais expliquer pourquoi. Et il me semble que ce que Christian a dit concernant le rapport justement entre Changeux et Bourdieu peut être assez intéressant de ce point de vue-là. C'est très simple, je repartirai de ce que Christian a dit concernant le mot economicus. Bon, tout le monde sait que c'est un modèle qui a régné dans l'économie standard pendant très longtemps. Donc on pensait à un calculateur rationnel égoïste dont absolument toutes les dimensions de comportement et d'activité étaient régies par cet aspect du calcul. On pouvait introduire dans le calcul des éléments ou des ingrédients plus ou moins complexes, mais c'était toujours un calculateur qui essayait de maximiser son intérêt. Voilà, c'est comme ça que le mot economicus a commencé sa carrière. Et il a eu une carrière très longue et très brillante. Mais on peut dire que justement, il y a une crise du modèle de l'homo economicus. Il y a une crise de l'économie standard. Il faut bien prendre la mesure de ça, dans la mesure où ça impose justement de revoir ce qui a constitué un ancien modèle et de tendre à lui substituer un modèle dont on espère, dont on attend que lui sera beaucoup plus convaincant, beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace. Alors en l'occurrence, ce nouveau modèle, quel est-il ? On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres séances, mais je prends comme ça un livre très sérieux écrit par quelqu'un qui s'appelle Christian Schmitt, qui est un des fondateurs de la neuroéconomie, qui se présente comme étant justement le fondateur d'une science ou d'une discipline tout à fait nouvelle en pleine émergence. Et dans ce texte-là, et dans d'autres d'ailleurs, il présente justement la neuroéconomie comme étant susceptible de remédier aux insuffisances du modèle standard, c'est-à-dire précisément aux insuffisances du modèle de l'homo economicus classique, c'est-à-dire de l'homme calculateur. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre en même temps l'opération, la visée, la finalité qu'il y a derrière cela. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout neutre. Ça se présente effectivement comme étant quelque chose qui relève d'un gain de scientificité. Alors on peut d'ailleurs en discuter hein, sur le mot economicus. Mais ce qui est plus important, c'est qu'en définitive, on nous dit que la connaissance qu'on peut avoir du fonctionnement des affects peut justement permettre d'inciter les individus à se comporter d'une certaine manière dans des situations particulières, par exemple des situations de marché. Et on imagine, à ce moment-là, on étudie le fonctionnement cérébral d'un agent sur un marché financier, en se demandant comment va-t-il se comporter précisément, en faisant en sorte que la part soit donnée, la part très grande soit donnée aux affects et aux émotions. Alors ce que je voudrais indiquer, c'est que, en fait, pour reprendre le concept de normalisation utilisé par Ferhat et mis au point par Ferhat, il me semble qu'il y a là quelque chose qui relève d'une entreprise de normalisation. Alors même que ça se présente comme étant une relève prometteuse d'un modèle caduc, puisque justement c'est le modèle standard qui est en crise, et ce qui est très intéressant, c'est la façon assez mitigée, donc parfois très équivoque ou très ambiguë, dont un certain nombre de collègues qui sont des économistes sont amenés à accueillir cette nouvelle discipline. Et là, je dis des choses que j'assume complètement. Je veux dire par là qu'ils ont tendance à trouver ça positif parce que ça remet en cause le modèle de l'homo economicus calculateur égoïste. Et c'est la seule raison qui fait que justement ils ont tendance à considérer que c'est positif. Là, il faut justement, c'est en ça que c'est très intéressant, que c'est un bon exemple, il faut se garder à cet égard de tout simplisme, dans un sens ou dans un autre, et il faut considérer que la normalisation peut parfaitement tirer parti de la connaissance cérébrale des affects, ou plutôt de la connaissance des bases cérébrales des affects, puisque c'est comme ça que, par exemple, Christian Schmitt est amené à s'expliquer concernant la neuroéconomie. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on introduit des affects, c'est pas parce qu'on introduit l'émotivité que nécessairement c'est bien. On peut introduire les affects, on peut considérer les affects, on peut considérer les bases neurales des affects et utiliser cette connaissance à des fins qui ne sont pas des fins de manipulation pure et simple, parce que manipulation ça veut dire prendre par la main et conduire vers un objectif, mais qui sont en effet des fins de normalisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, on glisse très facilement de la façon dont les neurones se comportent dans une certaine situation à la façon dont l'individu devrait se comporter en tenant compte de la connaissance qu'il a du fonctionnement de ses neurones. Et c'est un passage qui est effectivement assez fréquent, qui est très tentant, qu'on voit, c'est Hume qui, dans un traité célèbre sur la nature humaine, disait qu'il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup de philosophes, et il disait que ça l'irritait un petit peu, qui passent sans arrêt de « est » à « doit être ». Ben, vous verrez, on aura l'occasion de revenir en détail sur un certain nombre de textes, que c'est un passage qui est très fréquent, un glissement qui est très fréquent, le passage de l'être au devoir-être. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pas le fait de dire, voilà, il y a telle assemblée de neurones qui entre en activité lorsqu'on ressent tel affect, parce que ça, en soi, effectivement, on peut même parfaitement prendre acte du fait que, à partir du moment où ça a été effectivement constaté, etc., ça représente certainement un élément de connaissance. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur la distinction entre les éléments de savoir et l'autre part la science, c'est qu'il y a dans la science des éléments de savoir, que ces éléments de savoir peuvent donner lieu, justement, à des entreprises de normalisation, en dépit du fait que certaines connaissances acquises dans le cadre de ces pratiques sont scientifiques. Voilà, il faut un peu donner de la complexité, sinon à ce moment-là, ça devient une dénonciation assez vide de la normalisation, comme effectivement dans les années 70, j'ai mon âge, on pouvait entendre ce genre de discours avec le fait que ça tournait complètement à vide, parce qu'on dénonçait, on dénonçait, on dénonçait, mais je pense que là, il faut une connaissance précise de la façon dont ça opère. Voilà, c'est ça qui me semble important. C'est pour ça que le rapport avec Bourdieu est très important, et le rapport avec certains économistes critiques est également très important.
Alors, juste une remarque, Bourdieu n'a pas eu le temps, il ne change pas tellement non plus, d'analyser ce nouveau savoir auquel peu de gens s'appliquent sérieusement, excepté pendant un moment, il y a Bernard Stiegler, avec Simondon, c'est-à-dire quel est le savoir de ces nouvelles technologies qui, elles, utilisent les neurosciences, parce que vous voyez comment cette interconnectivité, les téléphones, tous les objets connectés, tout le savoir appliqué à Internet, à la téléphonie mobile, qui est un savoir qui a été bien plus connu aux États-Unis, bien avant qu'il ne soit massivement utilisé en France ou en Europe, ce savoir-là, je pense qu'il n'y a pas encore assez de philosophes qui se sont penchés dessus, parce qu'ils exploitent, ils font totalement oublier que c'est un savoir qui est véhiculé par la langue anglaise. Et l'analyse, comparer les langues latines et la langue anglaise appliquée à ce savoir, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas encore fait. Et vous voyez à quel point c'est important. Parce que je vous rappelle que Microsoft avait pour projet, lors du précédent gouvernement, lors de l'épidémie de grippe, de faire école par Internet, la télévision et la radio, parce qu'il fallait que les gens restent chez eux, parce que Microsoft avait comme projet non seulement... Il y a déjà une étude du regard sur l'écran, du regard de l'élève appliqué dès les plus petites classes. Ils ont même un fauteuil à l'étude dans lequel on sent la fatigue de l'élève pour savoir quand est-ce qu'il est encore capable d'apprendre ou pas. Donc ça, ce sont des savoirs extrêmement précis qui sont non seulement appliqués au cerveau et extrêmement efficaces, mais qui sont aussi appliqués au corps. Donc la langue, le corps, l'esprit, là, je vous laisse...
D'accord. On va aller. Ferhat voulait intervenir. On a atteint l'heure, mais Ferhat
juste deux mots pour ajouter à ce que disait Pierre sur la normalisation, parce que Madame avait posé la question sur le rapport à la normalisation. Il me semble que à partir du moment où on aura par exemple des évaluations cérébrales dans les entretiens d'embauche ou à l'école, là il y aura bien des cours de normalité cérébrale, si on peut les appeler ainsi. Eh bien, donc, il y aura un normal à respecter, et puis l'individu sera sommé d'être responsable de son cerveau. Donc, à savoir, il n'y aura pas de normalisation de type « on va manipuler les cerveaux de l'extérieur, mais on mettra les individus dans des situations telles qu'ils devront être responsables de leur cerveau ». Et là, il y a bien une exigence imposée à une existence, il me semble.
Eh bien, écoutez, je vous remercie tous de votre assistance et de votre patience. Prochaine séance, j'espère qu'on sera aussi nombreux, 12 mars, avec pour thème la naissance du paradigme neuronal, Mathieu Bellassène et Pierre Dardot. À dans un mois, donc.